Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Journal présenté par Belinda Bosuma.
À la une, 5 généraux de l'armée et de la police nationale congolaise jugés à Kinshasa pour lâcheté devant le M23 AFC à Goma. Ils comparaissent depuis hier devant la haute cour militaire. Parmi les accusés, le divisionnaire Ekoukalipo pour qui assurait l'intérim de gouverneur du Nord Kivu. Mois de mars, mois de la femme. Dans ce journal, nous vous proposons le portrait de l'une d'entre elles. Elle s'appelle Domi Riziki Kanyengele. Elle exerce un métier que beaucoup de femmes n'aiment pas. Et puis, l'invité de ce matin, professeur Jeff Mudimbi, docteur en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Il nous parle de la chance accordée à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU et le dialogue direct M23 gouvernement congolais sous la médiation de l'Angola pour amener la paix dans l'est du pays. Madame, Messieurs, bonjour. Ouverture du procès des officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise hier devant la haute cour militaire à Kinshasa. Ces officiers sont poursuivis par le ministère public pour avoir fui face à l'avancée du M23 AFC soutenu par le Rwanda à Goma le 28 janvier dernier. À cette première audience d'introduction, la haute cour militaire les a identifiés et leur a signifié les préventions mises à leur charge avant de renvoyer la cause au 20 mars prochain pour l'instruction du fond. Compte rendu de Jeff Ngoy Mulunda.
Ce renvoi consiste à ce que les parties au procès s'imprègnent du dossier. Se trouve dans le box des accusés le général-major Dieu Gentil Alengbia, commandant de la 34e région militaire, des généraux de brigade Dani Yangba et Papi Lupembe, deux commissaires de la police nationale dont le divisionnaire Romuald Ekuka qui assurait l'intérim de gouverneur du Nord Kivu et son adjoint Edi Mukuna. Ils sont prévenus de lâcheté, perte des matériels militaires, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation des consignes. Fait puni par l'article 113 du Code pénal et militaire selon le greffe. D'après l'auditeur général des FARDC, ces officiers sont réputés coupables devant l'avancée de l'ennemi en ravissant un des bateaux en partance pour Bukavu, quittant ainsi Goma et abandonnant les troupes au front alors que tout militaire est censé rester en poste, arme à la main, jusqu'au sacrifice suprême. Leur conseil plaide déjà pour la liberté provisoire de certains prévenus qu'ils jugent malades pour des soins et la prolongation du délai de renvoi. Mais la cour est restée intransigeante.
Sur le terrain, au Nord Kivu, la situation est restée tendue hier jeudi dans la région de Nyabiondo, Kachebere et Kibati, une zone à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale. Les rebelles du M23 AFC ont occupé la cité de Kachebere mercredi en début de soirée, ce après la prise de la cité de Nyabiondo depuis le week-end dernier. L'occupation de Kachebere expose grandement le chef-lieu de Walikale, bien que situé à une centaine de kilomètres de là, s'inquiètent les acteurs locaux. Si les rebelles s'emparent de Walikale, les centres, ils ne tarderont pas à atteindre Kisangani, qui reste dans leur viseur, estiment divers observateurs. Élise Kavira revient sur la situation d'hier jeudi.
Les rebelles du M23 AFC sont arrivés hier à Kachebere, chef-lieu du groupement Luberike en territoire de Walikale. C'est à une quarantaine de kilomètres de Masisi Centre. Ces derniers ont même tenu un rassemblement dans la cité. Cependant, plusieurs sources rapportent que des renforts en Wazalendo et en FARDC en provenance de Pinga seraient en route pour tenter de récupérer Nyabiondo. Des échanges de tirs ont été signalés ce matin vers 9h aux environs de Nyabiondo, sans plus de précisions néanmoins. La population qui tentait de regagner leur domicile à Nyabiondo fut obligée de repartir encore en direction de la Brousse et d'autres au centre de santé de Nyabiondo. Cette progression des rebelles dans les territoires de Walikale inquiète la population locale. D'après nos sources, les habitants des localités de Kibwa, Luvungi et au-delà ont commencé à vider leur village pour se mettre à l'abri. Plusieurs sources locales affirment également que même la société minière Alpha Mine Bissier Mining a commencé à évacuer son personnel dans la zone depuis ce jeudi. Cette situation d'instabilité aggrave les conditions humanitaires déjà précaires dans cette partie du Nord Kivu à cause de l'absence d'infrastructures.
Pendant ce temps, les présidents de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et de l'Église du Christ au Congo SCC saluent l'initiative de dialogue direct entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23, dialogue annoncé par l'Angola. Ces deux structures ont exprimé leur position mercredi à travers un communiqué conjoint signé par Mgr Fulgence Muteba pour la CENCO et le révérend André Bokundo Abolikabe pour l'SCC. Selon ses responsables ecclésiastiques, cette initiative représente le point de départ d'un dialogue global et inclusif devant forger un consensus national. Ronéline Tibonera a parcouru ce document et nous en donne les détails.
S'inscrivant dans leur mission pastorale visant à instaurer un pacte social pour la paix et les bien-vivre ensemble en RDC, ces pasteurs expriment leur reconnaissance envers les efforts déployés par João Lourenço, président de l'Angola. Sa démarche, selon eux, constitue une contribution significative à la recherche de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le même acteur, dans ses communiqués, adresse également leur gratitude au président de la RDC pour avoir accepté de privilégier les solutions pacifiques dans le règlement du conflit, rappelant qu'aucune solution militaire ne saurait résoudre durablement cette crise. La CENCO et l'SCC invitent l'ensemble des parties prenantes à répondre favorablement à l'appel au dialogue sincère initié par les présidents angolais. Alors que la situation humanitaire demeure préoccupante dans l'est du pays, ces deux organisations exhortent les acteurs en conflit à ouvrir un couloir humanitaire en faveur de populations affectées, conclut le communiqué.
Entre-temps, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC décident de mettre fin à la mission de la SADC en RDC, Samy Diarsi. L'annonce est faite dans un communiqué publié hier à l'issue d'un sommet extraordinaire présidé par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Sommet qui s'est tenu par visioconférence pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est congolais. Détail avec Martial Papimukeba.
Dans ce communiqué, le sommet exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment l'occupation des villes de Goma et Bukavu par les M23, ainsi que les blocages des principales routes d'approvisionnement rendant difficile l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a appelé à la protection et à la libre circulation des civils, chercha à se mettre en sécurité et a exhorté toutes les parties à respecter les principes humanitaires internationaux, à cesser les attaques contre les infrastructures civiles et à garantir un accès humanitaire sans entrave. Une décision a été prise, celle de mettre fin à la mission de la SADC en RDC Samy Diarsi et le lancement d'un retrait progressif des troupes. En parallèle, la SADC a réaffirmé son engagement à soutenir la RDC dans ses efforts pour retrouver la paix et la stabilité dans l'Est, appelant à une solution politique impliquant toutes les parties prenantes, y compris les acteurs étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, en fait de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC.
Et puis, mois de la femme oblige, parlons encore et encore femmes. Radio Capi s'est intéressée à un métier qui n'attire pas vraiment les femmes. Il s'agit de conducteur de bus à Radio Capi, un métier en majorité exercé par les hommes. Cependant, quelques femmes en petit nombre ont bravé la peur. Elles ont choisi ce métier de conducteur de bus pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est le cas notamment de Domi Riziki Kanyengele. Cette femme chauffeur nous raconte son parcours dans ce reportage de Sulamit Goma.
Cette mère d'un enfant a débuté sa carrière dans la ville de Goma au Nord Kivu avant d'atterrir à Kinshasa. Elle revient ici sur son parcours.
J'ai commencé à Goma, je faisais les taxis. J'étais chauffeur femme au taxi à l'agence TAC Goma. En 2020, j'ai quitté Goma pour Kinshasa. En 2023, j'ai été sélectionné à la radio Okapi Kinshasa.
Cependant, pour elle, le monde professionnel de Kinshasa où elle évolue depuis 2 ans est différent de celui de Goma.
La différence que j'ai trouvée quand je travaillais avec mes amis, collègues, chauffeurs femmes à Goma, il y avait toujours des polémiques, des critiques. Des disputes, des conquérances. Mais chez les hommes, il n'y a pas cela. Chez les hommes, vous respectez toujours le boulot, vous travaillez, vous parlez sans problème. Si j'ai une difficulté chez les hommes, je les demande et puis ils me répondent sans problème. Vraiment, il y a une grande différence.
Parlant du traitement au travail, elle reconnaît être privilégiée par rapport aux hommes.
J'ai été privilégiée à propos des shifts qu'on appelle le B50, c'est de 10h30 jusqu'à 6h. Vraiment là-bas, moi on m'a privilégié. J'ai fait tous les autres shifts sauf le B50 que je ne fais pas.
Domi Kanyengele est la seule femme chauffeur de radio Okapi.
Direction la province du Tanganyika. Le bateau MV Amani n'est plus opérationnel sur le lac Tanganyika depuis 2 semaines. La société carrière du Congo qui exploite le MV Amani annonce que l'embarcation est momentanément indisponible pour des raisons de réparation technique. Le bateau est immobilisé à Kigoma en Tanzanie. Mais quel est l'impact de ce navire sur le trafic lacustre dans la province du Tanganyika? Paulin Munanga.
Le président provincial de la FEC Tanganyika annonce que le MV Amani, qui est la plus grande embarcation sur le lac Tanganyika, transporte d'importantes cargaisons en provenance du Burundi et de la Tanzanie à destination des Kalemie. Jules Moulia.
Concernant le bateau Amani, pour le moment qui ne fait plus sa navette entre Uvira et Kalemie, je rappelle encore une fois que c'est le bateau Amani, opérant entre les deux villes sur le littoral congolais, qui ramenait toutes les importations du Burundi vers Kalemie. Un détonnage très très important, hein. Le bateau Amani prend plus de 2000 tonnes.
Et il souligne qu'actuellement, il y a baisse du trafic sur le lac Tanganyika à la suite de la guerre qui secoue les deux Kivus.
En ce moment, il n'y a plus rien qui vient du Burundi parce que la frontière est fermée. Dans ce climat vraiment délétère des affaires, il y a très peu de marchandises maintenant qui sont importées de Tanzanie. Pour des raisons tout à fait normales, le contexte économique n'est pas bon et voilà que les commerçants importent de moins en moins.
Signalons que la société carrière du Congo qui est exploite les bateaux Amani a, dans une note circulaire du 28 février dernier, informé son personnel qu'à la suite de l'incident survenu avec les bateaux GLC, le MV Amani est immobilisé pour subir des travaux d'entretien et de réparation.
Autre nouvelle, une forte tension a régné hier dans la journée à l'Institut supérieur des bâtiments et travaux publics INBTP Kisangani. En cause, l'enlèvement à Kinshasa du secrétaire général académique et directeur général ad intérim de cet établissement de l'enseignement supérieur dans la Tchopo. En vue de manifester leur mécontentement, les étudiants ont barricadé le tronçon du boulevard du 30 juin à la hauteur de leur établissement. Ils ont allumé du feu sur la chaussée à cet endroit et à la hauteur de l'Institut supérieur pédagogique ISP de Kisangani, distant d'environ 150 mètres. La police est arrivée sur les lieux pour rétablir l'ordre. Jacques Moukonkole, reportage.
Les accrochages entre la police et les étudiants de l'IBTP ont engendré la perturbation de la circulation sur une partie du boulevard du 30 juin. Ils ont entraîné également la fermeture des maisons des commerces installées dans les parages de cet établissement de l'Essu. La police a fait usage des gaz lacrymogènes et des tirs d'armes pour dissuader les manifestants. Charles Volopala, représentant des enseignants de l'IBTP, regrette le comportement des éléments de la police.
Donc, les étudiants étaient en train de garder, de sécuriser l'établissement. Les policiers sont venus, comme il y avait beaucoup de motos à l'intérieur, alors ils ont profité maintenant pour chercher comment disperser les étudiants et faire les pillages.
Des accrochages s'en sont suivis, provoquant des dégâts matériels importants. On peut voir notamment les impacts des projectiles sur les murs des bâtiments, des vitres cassées, des auditoires saccagés. Le secrétaire général administratif, Willy Osako, appelle les étudiants à l'apaisement.
Restez calme, les démarches sont en train de se faire pour que l'académie soit libérée. Notre ministre des Tutelles est au courant, les autorités de Kinshasa sont au courant, l'académie va revenir, qu'il soit calme, qu'on ne puisse pas détruire notre établissement. Je joue pour l'IBTP, je suis pour notre ville de Kisangani.
Rappelons que le CT Delphin Luka a été interpellé mercredi à Kinshasa par des hommes en tenue militaire avant d'être conduit à une destination jusque-là inconnue. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Après la suspension de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu par le vice-premier ministre de l'Intérieur, les députés provinciaux expriment leur désolation. Plus d'une année écoulée depuis le début de la législature, aucun édit n'a été produit et aucun contrôle parlementaire n'a été fait au gouvernement provincial qui est aussi provisoire, déplore-t-il. Ces élus parlent d'une mauvaise gouvernance et du blocage des institutions provinciales par le gouvernement central. Ils appellent le ministre Jacquemain Chabani à respecter les textes légaux en la matière et à lever sans condition cette mesure qu'il qualifie d'ingérence illégale. Le député provincial Paulin Kiankai, vice-président honoraire de cet organe délibérant, est l'un d'eux, explique au micro de Irène Boma.
Sommes sidérés, estomaqués après lecture du télégramme, du communiqué du ministre central de l'Intérieur qui suspend l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu prévue pour le 14 mars tenait depuis une année et demie. Au Puy-Loup, tout est provisoire. Un bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, un gouvernement provisoire. Par conséquent, les rôles définis pour un député provincial, ces rôles-là sont enterrés. Nous ne saurons pas représenter cette population qui nous a élus. Nous ne saurons pas produire des édits. Et le troisième rôle, c'est le contrôle parlementaire. Nous en sommes incapables maintenant là. La gestion provincial et entre parenthèses, entre accolades. Maître Jacquemin Chabagne, le ministre central de l'Intérieur, il connaît que l'élection du bureau définitif d'une assemblée provinciale est tenue par une commission ad hoc. Même pas par le bureau, pas par la CENI.
Actualité internationale. Les chercheurs en génétique étudient une multitude des moyens de lutter contre le paludisme en modifiant les moustiques porteurs du parasite qui propage la maladie. Une équipe britannique cherche à rendre l'insecte lui-même résistant au parasite de sorte que les moustiques deviennent incapables d'infecter les humains. Dans un laboratoire de maladies infectieuses de Londres, les chercheurs travaillent dans un insectarium rempli de cages de moustiques. L'équipe de l'Imperial College London fait partie d'un groupe de scientifiques internationaux appelé Transmission Zéro.
L'invité.
Dernière livraison de notre série sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU et le dialogue direct entre le M23 et le gouvernement sous la médiation de l'Angola. Quelle chance accorder à toutes ces démarches diplomatiques pour le rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs? Nous recevons le professeur Jeff Mudimbi, docteur en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Il est avec Jean Gandou.
Professeur Jeff Mudimbi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a non seulement condamné l'avancée du M23 soutenue par le Rwanda, mais elle a aussi condamné le soutien par la RDC de FDLR. Et par la suite, elle a recommandé aux deux parties de dialoguer pour une issue pacifique à cette crise. Pensez-vous réellement que ces recommandations soient efficaces pour une paix durable, notamment dans la région des Grands Lacs?
Je pense que ces résolutions-là peuvent connaître un problème sérieux d'efficacité parce que il n'y a pas eu des moyens, des contraintes pour amener les différentes parties à s'engager réellement. Et comme vous le savez, le droit international présente une certaine faiblesse, c'est que c'est un droit qui ne compte que sur la bonne volonté des parties. Alors, cette bonne volonté-là n'existant pas de deux côtés, il est vraiment difficile ici que de telles recommandations puissent aboutir à des résultats escomptés.
C'est vrai que cette résolution n'a pas de pouvoir coercitif, mais nous voyons qu'il y a certaines institutions, certaines structures qui condamnent quand même le Rwanda. Ne pensez-vous pas que cela puisse pousser le pays incriminé à s'allier sur ce qui est attendu de lui?
Il est vrai que ces différentes condamnations-là constituent où nous pouvons les aligner sous l'angle de l'opinion publique. Et comme vous le savez, l'opinion publique agit bien entendu, mais quand nous regardons la nature des dirigeants face à l'opinion publique, pour le cas du Rwanda, nous avons affaire à un gouvernant dominant l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion, elle est là, elle exerce une certaine pression, mais le dirigeant fait aussi un effort pour dominer cette opinion et créer de toutes pièces une autre opinion qui lui est favorable.
Et nous savons également que plusieurs résolutions ont déjà été adoptées ou votées au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC, mais sans vraiment que la donne ne puisse changer sur le terrain. Que préconisez-vous pour que cette résolution, la dernière donc, soit efficacement appliquée et qu'elle apporte une solution définitive à la crise qui prévaut dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est du pays?
Je pense que la résolution devrait être accompagnée des moyens de contrainte. Et en l'absence de la bonne foi des parties, je pense qu'il n'y a que des moyens contraignants qui peuvent amener les gens ou les parties à se plier à la résolution qui a été adoptée.
Moyens contraignants, vous pensez à quoi?
Bon, c'est pratiquement les sanctions, notamment, qui sont des moyens auxquels la communauté internationale fait souvent recours.
Après les refus catégoriques du gouvernement de Kinshasa de négocier avec les M23, donc Kinshasa vient enfin d'accepter qu'il y ait un dialogue direct avec ces groupes rebelles sous la médiation de l'Angola. Pouvons-nous espérer enfin voir la fin des hostilités quand on sait que tous les leaders du M23 sont condamnés et d'autres croupissent sous le mandat d'arrêt?
D'abord, quand on s'engage dans une discussion ou encore dans une négociation, on ne peut pas y aller tête inclinée. C'est que la RDC y va avec un point de vue qui constitue pratiquement ici sa force. Il en est de même aussi du M23. Alors pour la RDC, le fait déjà qu'il y ait des résolutions condamnant le Rwanda et le M23 constitue une force pour le pays. Mais pour le M23, les portions des territoires conquis dans l'est du pays constituent aussi une force pour ce mouvement-là. Alors, chacun y va en position de force.
Et donc, il faudrait qu'il y ait des concessions.
À coup sûr, il faudrait qu'il y ait des concessions pour qu'on arrive à une solution mutuellement acceptable. Même quand aujourd'hui, la RDC accepte de négocier avec le mouvement M23, je ne pense pas que ce soit de bon gré. Donc, en faisant une analyse minutieuse, on peut s'imaginer que on veut imposer à la RDC ce qu'il convient d'appeler la paix des puissances. C'est-à-dire, entre deux belligérants, s'ils n'arrivent pas à s'accommoder, alors il y a une puissance étrangère qui s'impose, qui donne un coup à l'un comme aussi à l'autre, les obligeant ainsi de faire quoi? De s'accommoder, de trouver une solution mutuellement acceptable.
Enfin, que pensez-vous de la démarche des églises catholiques et protestantes, mais aussi la position de l'opposition politique congolaise?
C'est pratiquement ici deux démarches diamétralement opposées, parce que pour les églises, il faudrait que l'on arrive à la négociation, mais ce point de vue-là n'est pas partagé par l'opposition. L'opposition en RDC, d'abord, elle est plurielle. Il y en a qui demandent carrément que l'on refasse les élections ou que l'on ne puisse pas négocier et que l'on attende directement en 2028. On ne voudrait pas que le président de la République puisse se présenter parce qu'il aura ainsi consommé ses deux mandats.
Jeff Modibé, je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.